Un jour, Dieu fera un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Il n'y aura plus de maladies, plus d'injustice, plus de pauvreté. Dieu merci, ce jour approche, mais en attendant, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous devons avoir une histoire d'amour avec le livre de Dieu qui peut nous édifier et nous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés.
Bonjour, je suis Bill S. Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Bonjour, cher ami. Je suis ravi que vous ayez choisi de vous joindre à moi aujourd'hui. Je commence une petite série. Je vous préviens, vous allez devoir regarder les prochaines semaines. Mais vous allez apprécier. L'une des choses que nous avons en commun en tant qu'humains, quelle que soit notre langue, quel que soit notre héritage national ou notre éducation culturelle, c'est que nous partageons tous certains besoins. Et l'un d'entre eux est le besoin de santé physique. Tout le monde veut être en bonne santé. Tout le monde sait que la maladie est un ennemi. Certains diront même, « Je pense que c'est Dieu qui m'a rendu malade. » Si vous croyez vraiment cela, ce serait une rébellion absolue que d'aller voir un médecin ou de prendre des médicaments pour essayer de renverser la volonté de Dieu. Si c'est Dieu qui vous a rendu malade, vous devriez vous en réjouir. Je ne dis pas de ne pas nous réjouir en toutes circonstances, car nous le faisons. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, nous devons nous réjouir. Mais il est illogique de dire « c'est la volonté de Dieu que je souffre de ceci, mais je veux faire tout ce que je peux pour échapper à la volonté de Dieu ». Je reviens à mon propos. Je pense qu'au plus profond de nous, nous savons que la santé est une bonne chose. Si je suis en bonne santé, je peux travailler et subvenir aux besoins de ma famille. Je peux être un bon frère ou une bonne sœur. Je peux être un bon père et prendre soin de mes enfants. Et être un bon mari. Je peux être un bon grand-père et j'ai de l'énergie pour mes amis. Me concernant, si je suis en bonne santé, j'ai l'énergie de prêcher, de voyager, d'exercer mon ministère et de faire les choses auxquelles je suis appelé. Mais la maladie est invalidante. En y réfléchissant, j'ai parcouru les Écritures et j'ai rassemblé un certain nombre de questions. Et ces questions traitent directement ou indirectement de la guérison. Nous allons examiner ces questions qui sont proposées par différentes personnes, certaines par Dieu lui-même, d'autres par les prophètes, d'autres par des individus, d'autres par Jésus, et nous allons examiner les réponses ensemble. Écoutez, c'est important car le temps viendra où vous, ou quelqu'un que vous aimez ou connaissez, aura besoin d'entrer en contact avec le Dieu guérisseur. C'est un sujet incroyablement important. La première se trouve dans Jérémie 8, 22. Et la question que pose le Seigneur est, n'y a-t-il pas de baume en Galaad, n'y a-t-il pas de médecin là-bas? En fait, le verset complet dit, n'y a-t-il pas de baume en Galaad, n'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Dieu est le grand médecin. Et il veut que nous soyons en pleine santé, esprit, âme et corps. L'histoire d'Israël était marquée par une grande déchéance morale. Ils étaient vaincus par leurs ennemis, ils s'étaient détournés de Dieu. Pourquoi n'étaient-ils pas guéris et n'étaient-ils pas bien spirituellement et moralement? Ils avaient abandonné le grand médecin. Même si c'est sûrement le contexte principal, et je pense que nous le comprenons, il serait inutile de le contester. Il y a aussi une révélation plus large. Parce que Dieu est le médecin, le guérisseur de nos corps également. Il demande, n'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Pensons-y d'une manière naturelle en ce qui concerne la guérison physique. Dans Exode 15-26, quand Dieu a fait sortir les Israélites du pays d'Égypte, avant même de leur donner les 10 commandements, il s'est révélé à eux comme leur guérisseur. Dans Exode 15-26, il leur a dit d'écouter ses commandements et de lui obéir, parce qu'il est le Seigneur qui vous guérit. Vous ne serez pas atteints par les maladies de l'Égypte, car je suis Jéhovah Rapha, le Seigneur qui te guérit. C'est spécifiquement dans le contexte de la guérison physique que Dieu a dit cela. Il s'est révélé comme le guérisseur de son peuple avant même de lui donner sa loi. Il voulait qu'il le sache avant tout. Même une mère s'occupe de la santé et du bien-être de son enfant avant de s'occuper de son éducation. Dieu veut que le membre le plus nouveau et le plus humble de sa famille sache qu'il est un guérisseur. La question est donc de savoir pourquoi il n'y a pas de rétablissement. Pourquoi n'y a-t-il pas de guérison et de restauration? Pour la santé physique, n'y a-t-il pas de baume à Galaad et de médecin? Oui, il y a un médecin. Le peuple d'Israël ne vivait pas la guérison parce qu'il l'avait abandonnée et ne l'avait pas cherché. Je pense que la réponse pourrait être la même pour nous, car nous ne l'avons pas cherché. Permettez-moi de vous lire quelque chose dans 2 Rois, chapitre 1, versets 2 et 3. Achazia, il était un roi, tomba par le treillis de sa chambre à l'étage à Samarie. Et il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en leur disant, « Allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. » Il est l'un des rois d'Israël, il tombe par le treillis de sa chambre haute, il est blessé et il s'adresse à un dieu païen pour demander la guérison, pour avoir des nouvelles et de l'aide pour sa guérison. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, « Il est un prophète du Seigneur. Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, « Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Puis Élie s'en alla. Ce roi, qui aurait dû savoir d'après les Écritures que Dieu était un guérisseur, ne s'est pas adressé à Dieu, il s'est adressé à un dieu païen. Puis, lorsqu'Élie lui parle enfin au verset 16, il le redit encore, mais en ajoutant quelque chose. Il lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas en Israël de dieu dont on puisse consulter la parole. » En d'autres mots, tu aurais pu aller voir le guérisseur, mais tu ne l'as pas fait. Par conséquent, tu ne te rétabliras pas. Il y a une histoire similaire à propos d'Asa. Il était l'un des bons rois de Juda. Il est dit au verset 12 dans 2 Chroniques 16, « La 39e année de son règne, il eut une très grave maladie des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel, mais les médecins. Asa se coucha avec ses ancêtres. Il mourut la 41e année de son règne. » Ce n'était pas un problème qu'Asa consulte les médecins. Il n'y avait rien de mal à cela. Ce qui était mal, c'est qu'il n'a pas cherché le Seigneur dans sa maladie. Il a cherché une aide naturelle, mais il n'a pas cherché une aide surnaturelle. Il n'a pas consulté Dieu, il n'est pas allé à Dieu. Il n'a pas prié le Seigneur à ce sujet, mais il a consulté les médecins. Et il a fini par mourir. Sa maladie est devenue très grave. Vous savez, j'ai dit au début de l'émission d'aujourd'hui que les gens disent parfois, « C'est la volonté du Seigneur que j'ai cette maladie. » Puis, ils vont voir les médecins pour la contourner. Pour moi, cela n'a pas de sens. Je suis en faveur des médecins. Ils savent que la maladie est un ennemi. Ils essaient de la vaincre par des moyens naturels, et je remercie Dieu pour cela. Tout médecin honnête admettra que la médecine ne guérit pas et que ses compétences ne guérissent pas. Ils ne font qu'aider à la guérison que Dieu a naturellement tissée dans notre corps humain. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra, mais j'ai une petite tache sombre ici. C'est parce que j'étais dans mon olivier l'autre jour, dans les parties les plus hautes, au grand dam de ma femme, avec une scie. Je taillais cet olivier. J'étais en haut d'une échelle de 4 mètres. Je m'accrochais aux branches. Aujourd'hui, l'olivier est magnifique. Je n'ai pas eu d'accident ou de blessure, mais quand j'ai fermé l'échelle, je me suis pincé la main et j'ai perdu un morceau de la paume de ma main, à peu près de la taille de mon ongle. J'ai observé cette chose. Dieu a tissé la guérison dans ma nature physique. Bien qu'il y ait eu un trou béant profond et que la chair ait disparu, petit à petit, immédiatement, mon corps s'est mis au travail pour apporter la guérison. Vous blessez un arbre avec un couteau et immédiatement il commence à se guérir. Dieu a inscrit la guérison dans le tissu même de la nature. Pour en revenir à mon propos, un médecin honnête dira « Écoutez, je ne suis pas un guérisseur, je travaille dans la guérison, mais je fais tout ce que je peux pour aider le corps humain dans son propre processus naturel de guérison et ses pouvoirs de guérison. » Si nous passions autant de temps à chercher Dieu et à examiner sa parole sur le sujet de la guérison qu'à consulter un médecin naturel, nous entendrions beaucoup plus de guérisons et d'histoires merveilleuses. Une personne peut passer des heures et des heures, équivalent littéralement à une journée de travail ou à plusieurs jours de travail, à chercher un soulagement naturel à quelque chose et passer tout au plus 5 minutes à lire les promesses de guérison de Dieu. Elle peut passer tout au plus 5 minutes à genoux, à chercher le grand médecin et passer des heures et dépenser de l'argent et du temps. Cela est pénible, mais nous n'y pensons pas à deux fois. Mais nous n'avons pas de temps pour le grand médecin. Si nous passions la moitié du temps que nous consacrons à chercher une aide naturelle, à chercher le grand médecin, nous découvririons que nous n'avons pas besoin d'autant d'aide et d'assistance naturelle. Je crois que le grand médecin devrait être notre première ligne de défense et non notre dernier effort. Merci Seigneur pour les médecins et pour toute l'aide naturelle que nous pouvons avoir. Si vous devez le faire, faites-le et c'est merveilleux. Mais nous ne devrions pas y consacrer tout notre argent, notre énergie et notre temps. Et si cela échoue, nous allons à Dieu en dernier recours. Cela ne l'honore pas. Nous devrions d'abord nous adresser à lui. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu en passant du temps dans sa parole sur le sujet de la guérison, en lisant les évangiles avec un regard neuf, en nous attardant sur les histoires où Jésus a guéri des gens, ce qu'il leur a dit et comment il a agi avec eux. Lisez les psaumes et regardez les références à la guérison et les promesses qui s'y trouvent. Selon Proverbe 4, la parole de Dieu est son remède. Il est dit « Sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. » Littéralement, dans l'hébreu, c'est un remède pour toute leur chair. Alors prenez le temps de vous plonger dans le remède de Dieu. La question demeure, n'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Qu'est-il arrivé au grand médecin? Pourquoi n'entendons-nous pas parler de guérison aujourd'hui? Comme dans les évangiles ou le livre des actes. C'est peut-être parce que, comme les rois dont il est question ici, ils n'ont pas cherché Dieu dans leur situation. Mais ils ont cherché des moyens naturels. L'un d'entre eux a même cherché un dieu païen, ce qui est très mal. Si vous cherchez des moyens naturels, faites-le, mais allez d'abord à Dieu. Faites de lui votre premier moyen de défense. D'accord, continuons. Deuxième question tirée du livre de Job. Nous savons tous que Job a traversé des épreuves difficiles et c'est dans Job 9. Job a perdu sa famille. Tous ses fils et ses filles ont été tués. Il a perdu toutes ses richesses. Sa femme s'est détournée de lui. En fait, elle a dit « Maudit Dieu » et « Meurs ». Ce n'est pas une bonne aide, selon moi. Et Job a perdu la santé. Il est assis sur un tas d'ordures et gratte ses ulcères avec un tesson. Il a tout perdu. Ses amis s'assoient stupéfaits sur le sol et finalement, ils prennent la parole. Et la conversation se poursuit. Il est intéressant de noter que la quasi-totalité du livre de Job est une conversation qui se déroule sur une seule journée. La plupart des spécialistes de la Bible s'accordent pour dire que la calamité de Job, tout ce qui s'est passé, a probablement duré 9 mois, tout au plus. Ce n'était pas perpétuel, ce n'était pas une vie entière. Mais toutes ces choses sont arrivées à Job, et les amis de Job, en résumé, lui disent « Écoute, Job, Dieu t'a fait tout cela, Dieu t'a ôté la santé, Dieu t'a rendu malade, Dieu a tué tes enfants, Dieu a enlevé ta richesse parce que tu es mauvais et tu le mérites. » Job, quant à lui, dit « Je suis d'accord avec vous, Dieu me fait cela. » Mais je ne le mérite pas, je ne suis pas mauvais. Tout ce que vous dites sur moi, ce dont vous m'accusez, je ne l'ai pas fait. C'est le sujet de cette conversation, de tous ces échanges. Ils disent, non, Dieu l'a fait et il est juste de le faire. Job, tu dois te repentir parce que tu es mauvais et que tu le mérites. Job dit, je ne le mérite pas, je n'ai pas fait ce que vous dites. C'est Dieu qui fait cela et je ne sais pas pourquoi. À la fin de l'histoire, Dieu se manifeste et parle par l'intermédiaire d'Élihu. Puis le Seigneur entre en scène dans un tourbillon et parle. Il dit à Job, « Job, les choses que tu as dites et que tu as pensées sont fausses. » Job dit, « Je suis innocent et c'est Dieu qui l'a fait. » Lisez le livre de Job. Certains extraient tout des 2 premiers chapitres. Job dit des choses qu'il ne comprend pas pleinement. Plus tard, il dit, « J'ai mis ma main sur ma bouche, j'ai parlé sans savoir. » Dieu l'a réprimandé et lui a dit, « Les choses que tu as dites ne sont pas correctes, Job. » Job s'est repenti dans la poussière et la cendre. Ce qu'il a dit était faux. Après que Job se soit repenti, Dieu n'avait plus rien à lui reprocher. Il lui a dit, « Tu dois offrir un sacrifice pour tes amis. » Dieu a dit, « Vous n'avez pas dit ce qui est juste, comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu vient de dire à Job que tout ce qu'il a dit était faux. Et maintenant, Dieu dit, « Ce que Job a dit est juste. » Parce qu'une fois que Job s'est repenti, il n'y a plus de traces de ses propos erronés. Il n'y a plus de traces de son péché. Que Job a librement admis quand Dieu est intervenu. Dieu est merveilleux, son pardon est merveilleux. Enfin, je n'avais pas prévu de parler de tout cela. Lorsque Job était au cœur de la crise, lorsqu'il avait perdu sa santé, qu'il avait perdu tout le reste, écoutez ce que Job dit. C'est dans Job, chapitre 9 et verset 17. Job parle de Dieu et dit, « Puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures, il ne me laisse pas reprendre mon souffle. Tant il me rassasie d'amertume, il parle de Dieu, il accuse Dieu. Il dit, « Si je veux recourir à la force, voici qu'il est tout puissant. Si c'est au droit, qui me fera comparaître ?» Même si je suis juste, ma bouche me condamnera. Même si je suis intègre, elle me déclarera coupable. Suis-je intègre? Je ne le sais pas moi-même. Je suis dégoûté de mon existence. Qu'importe après tout. En effet, j'ose le dire, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Job accuse Dieu. Dieu, tu extermines l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. Cela ressemble-t-il au Dieu que vous connaissez? Au Dieu que Jésus a révélé? Jésus a dit, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Dieu se moque-t-il du sort des innocents? Non, mais c'est ce que Job reprochait à Dieu. Au verset 24, il dit « La terre est livrée entre les mains du méchant. Il aveugle ses juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc ?» Voilà notre question. Job dit « Toutes ces choses sont arrivées, j'ai perdu ma santé et ma famille, j'ai été détruit. Je vois des innocents détruits. Si ce n'est pas Dieu, qui est-ce ?» Certaines traductions disent « Si ce n'est pas Dieu, alors qui fait cela ? Qui est responsable de toute cette inégalité ? Qui est responsable de toute cette destruction ?» Job ne le savait pas. Il ne pouvait pas se référer à Job chapitre 2, verset 7, pour le savoir. Job 2, 7 dit ceci. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Satan a frappé Job d'un ulcère. Satan, le diable, a rendu Job malade. Si cela vous donne envie d'en savoir plus, j'ai fait une série. Vous pouvez aller sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube pour trouver ces messages sur le livre de Job. J'ai fait un enseignement détaillé sur tout le livre. Je pense qu'il vous sera utile. Le livre de Job le dit clairement. Job n'était pas présent. Il ne le savait pas. C'est Satan qui a rendu Job malade. Job pensait que c'était Dieu. Plus tard, Dieu l'a corrigé. Job a dit, « Si ce n'est pas Dieu, qui est-ce ? Qui fait cela ?» Beaucoup de gens se posent la même question aujourd'hui. « Si ce n'est pas Dieu, qui est-ce ? » Je me souviens d'un jeune homme qui a été sauvé peu après moi. Il avait un parcours similaire au mien. J'étais si heureux de son salut. Un jour, je l'ai croisé dans un parc. Je ne l'avais pas vu aux études bibliques. Il n'y allait plus. Il avait en quelque sorte disparu de la carte. Je l'ai vu dans le parc et j'ai dit « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Ça ne va pas bien, Bayless. » J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Je suis très malade depuis des semaines. J'ai une grave maladie des poumons. » Il a parlé de tout ce qui allait mal, des choses terribles. Il était physiquement mal en point. Il a dit « Les chrétiens, mes nouveaux frères dans le Seigneur, m'ont dit que c'était Dieu qui me faisait tout cela. Pourquoi Dieu me frappe-t-il? Je ne comprends pas. » J'ai tenté de lui dire « Ce n'est pas Dieu qui fait cela. Il n'en est pas responsable. » Il ne m'a pas trop écouté, il a baissé la tête et s'est éloigné. J'étais un peu perturbé ce jour-là, parce que beaucoup de gens pensent que tout ce qui arrive vient de Dieu. Nous avons un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous vivons dans un monde déchu. Tout ne fonctionne pas comme Dieu l'a prévu à l'origine. Un jour, Dieu fera un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la justice y habitera. Il n'y aura plus de maladie, plus d'injustice, plus de pauvreté. Dieu merci, ce jour arrive, mais en attendant, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous devons avoir une histoire d'amour avec le livre de Dieu qui peut nous édifier et nous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Écoutez ceci, c'est dans Luc chapitre 13, verset 10. On parle de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Verset 11. « Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme. » Littéralement, elle avait un esprit de maladie depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Je suis sûr qu'il y avait un terme médical pour cela. Peut-être l'arthrite de la colonne vertébrale ou un autre terme utilisé aujourd'hui. L'Écriture nous dit, dans ce cas particulier, ce qui était la cause. C'était un esprit de maladie qui avait causé cette maladie et l'aggravait. Et au verset 16, Jésus dit ceci, « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat ?» Ne fallait-il pas ? Elle est fille d'Abraham. La Bible dit, si vous appartenez à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. Mais Jésus a dit que c'est Satan qui en était responsable. Dans Actes 10, 38, il est dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui, Dieu était avec Jésus. Ceux que Jésus a guéris étaient opprimés par le diable, directement ou indirectement. La Bible le dit dans Jean 10, 10, une grande ligne de démarcation. Jésus dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Amis, Jésus vient nous donner la vie et une vie abondante. » C'est le voleur, le diable, qui vient pour voler, égorger et détruire. Je vais prier pour vous. Mon temps est écoulé et je ne suis pas allé aussi loin que prévu. Je veux vous dire que vous êtes aimé de Dieu. Dieu n'est pas votre problème, il est votre solution. Dieu n'est pas la cause de votre destruction, Dieu est votre sauveur. Je me fiche de ce que disent les autres, il est bon, il est un guérisseur. Il est un sauveur et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, délivré et secouru. Invoquez le nom de Jésus aujourd'hui. Vous découvrirez qu'il est une aide très présente en temps de besoin. Vous allez devoir vous joindre à nous la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.